nous allons partager donc toujours dans cette série sur la louange pour un dernier partage concernant la louange. Et la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, c'est la louange dans la fournaise. La louange dans la fournaise. On va lire donc un texte dans la parole de Dieu. C'est vrai que ça paraît paradoxal de se dire que dans la fournaise, on peut louer le Seigneur, parce que c'est deux éléments complètement qui paraissent contradictoires. Et on va voir que dans la parole, la fournaise et la louange sont rassemblées dans un même texte. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 12. 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. » Alors vous avez la fournaise au verset 12, bien sûr. « Trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Et puis à la fin au verset 16, « Mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Et là ça évoque bien sûr de louer le Seigneur. Alors, il y a des moments dans notre existence où on n'a pas forcément envie de louer le Seigneur. Pourquoi ? Bien parce qu'on a eu des déceptions, peut-être que Dieu n'a pas répondu à notre prière, ou peut-être il a répondu, mais pas comme on aurait souhaité. Et ça crée en nous des frustrations, des désillusions, peut-être quelqu'un a envie de tout abandonner, tout quitter. Des fois on a même des frustrations parce qu'on a prié puis on pensait avoir telle porte dans le monde du travail ou tel poste et puis la porte s'est fermée. Et mon frère, ma soeur, si une porte s'est fermée, Dieu n'est-il pas capable d'en ouvrir une autre? Et si une porte s'est fermée, est-ce que c'était la volonté de Dieu d'aller dans cette direction aussi? Il nous faut voir les choses selon la vision de Dieu. Et parfois, il est bon que des portes soient fermées parce que nous nous engagerions, nous-mêmes, tête baissée, dans des directions qui ne sont pas de Dieu. Peut-être c'est quelqu'un qui connaît des moments de tristesse, découragement. Peut-être quelqu'un qui connaît la maladie. Et quand la maladie est là, ce n'est pas évident de louer le Seigneur. Et quand il y a tous ces éléments qui sont réunis, alors on a plutôt envie de se plaindre que de louer le Seigneur. Je pense à ce peuple... des Hébreux, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient tous dans la joie. D'ailleurs, après le passage de la mer Rouge, vous avez cette femme, la sœur de Moïse, Marie, qui va composer un cantique de louange. Et il va y avoir donc de la louange, de l'adoration, ça se fait dans la joie. Et puis rapidement, au sein du peuple, c'était plus des louanges, mais c'était plutôt des grincements de dents, des murmures, des éléments négatifs. Alors, c'est vrai que des fois, on a envie de se plaindre. Alors, parfois, ça fait du bien de, entre guillemets, de vider son sac devant le Seigneur. Vous savez que Dieu, c'est le plus grand des psychologues. Lui, il connaît parfaitement notre âme. Et lui, il sait comment au moins intervenir. Les psychologues, eux, ils peuvent écouter, bien sûr. Mais pour guérir quelqu'un, ça, c'est du domaine de Dieu. Or, nous avons un divin médecin qui prend soin de notre âme. Alors, peut-être on a besoin de répandre notre cœur devant lui. Vous avez quelques exemples dans la parole de prière où David, il répand son âme, ses déceptions, ses désillusions, ses désespoirs, il les dit à Dieu. Mais mon frère, ma sœur, si on reste au niveau des plaintes, alors là, quelque part, je nous plains, parce que ce n'est pas normal de rester constamment dans la plainte devant Dieu. Il nous faut retrouver, ou si on est passé par la plainte, reprendre le chemin de la louange, parce qu'on n'est pas appelé à être des plaintifs, mais à être des adorateurs en esprit, en vérité. Donc la louange, j'ai dit la louange dans la fournaise, il y a deux éléments. Donc le premier élément, c'est la fournaise. Concernant la fournaise, premier point, on ne l'a pas choisi. Personne ne l'a choisi. Qu'est-ce que la fournaise? La fournaise, c'est un lieu de haute chaleur, de haute combustion, où les métaux commence à se fondre et voire à se transformer. C'est aussi un lieu de transformation. Donc il y a un feu, il y a l'embrasement. La version Darby traduit un feu ardent. La traduction Parole vivante traduit un feu de brousse. Donc un feu qui semble qu'on ne peut pas éteindre. On est entouré par ce feu, il nous écrase, il nous brûle. Et dans le contexte de l'épître de Pierre, de quoi parle Pierre ici quand il dit « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve ?» Bien, il parle du contexte des persécutions. Si vous lisez le chapitre 4, vous verrez que les premiers chrétiens, ils connaissaient vraiment physiquement des persécutions, des souffrances, le rejet. Et c'était véritablement la fournaise. Alors la fournaise, on ne l'a pas choisie. Mais du fait qu'on est chrétien, on va connaître certains moments d'épreuve. Je pense à ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi Nabuchodonosor. C'était obligatoire. Et le roi a dit, si vous ne vous prosternez pas, c'est la fournaise. Mais ils n'ont pas eu le choix. Et admettons qu'ils aient eu le choix et qu'on leur dise, vous choisissez soit c'est la fournaise, soit on vous met dans la prison. Qu'est-ce qu'ils auraient choisi? Qu'est-ce qu'on aurait choisi, nous? Si on nous laisse le choix entre la fournaise ou la prison. Moi, je choisis la prison. Je ne sais pas vous, mais si on me laisse le choix, je choisis la prison. La fournaise, personne ne va la choisir de lui-même. Et les trois, ils ont fait confiance à Dieu, mais ils y ont été emmenés, liés, et puis ils les ont jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas eu la possibilité de choisir une autre option. Même si on leur avait dit, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous garder dans la fournaise. Des fois, on est là plein des promesses de Dieu, mais quand même, quand on doit s'approcher de la fournaise, déjà, on sent la chaleur qui vient. Et voilà. Donc, qu'est-ce que la fournaise? Un lieu de feu. Personne ne souhaite entrer dans la fournaise, mais la Bible nous montre que un jour ou l'autre, la fournaise sera sur notre route. Que nous soyons prêts ou que nous ne soyons pas prêts, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, c'est un fait. Et d'ailleurs, Pierre nous prévient, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange. » Et il dit un peu plus loin, « Ne trouvez pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. » Autrement dit, Pierre est en train de nous dire, « Mais c'est normal si vous connaissez la fournaise. » Mais on pourrait dire l'inverse, « Mais ce n'est pas normal si nous ne rencontrons jamais d'épreuves ou de fournaises dans notre existence. » Mais pour Pierre, du fait qu'on est chrétien, alors il y aura ces épreuves. Le premier point, donc, on a dit, on ne l'a pas choisi. Deuxième point, on ne peut pas l'éviter. Il y a un verset dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, qui nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux. Alors, ça veut dire que nous qui avons donné notre vie au Seigneur, là, je parle des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens de nom. Vous avez des chrétiens qui vous disent ils sont allés une fois dans l'année à l'église pour la Noël, et puis voilà, ils ont fait leur bonne action annuelle. Voilà. Ils s'appellent chrétiens aussi. Mais les véritables, eux, ils ne sont pas persécutés. Les véritables chrétiens, donc, qui veulent vivre la vie chrétienne en Jésus-Christ, eux, ils seront persécutés. Mais est-ce qu'on veut vraiment suivre le Seigneur? Est-ce qu'on veut vivre pieusement en Jésus-Christ? Ça, c'est la question qui nous est posée. Ben, les conséquences, Paul l'a dit, alors vous serez persécutés. Je serai persécuté, vous le serez aussi. C'est un fait, c'est comme ça. C'est une autre manière de dire, vous passerez par la fournaise. Alors on ne peut pas l'éviter. Quelqu'un voudra peut-être faire un contournement et dire au Seigneur, mais moi si je peux éviter de passer par là et que je passe par un endroit plus facile, hein, faire des détours. Mais vous savez que si on ne veut plus suivre le plan de Dieu et si on doit passer par des fournaises, eh bien le contournement, ça signifie faire des compromis. Est-ce qu'on peut être bien quand on est dans le compromis? On va aussi avoir des problèmes. Parce qu'on aura un pied avec Dieu et puis un pied tiraillé avec le diable. Et puis le diable, il va tirer de l'autre côté pour nous faire basculer et nous faire quitter la voie de Dieu. Donc le compromis, c'est se mettre en danger et c'est aussi une souffrance. La souffrance, elle peut être de différents ordres. On peut connaître la souffrance physique parce que quelqu'un est venu peut-être malade, âgé. Et puis, il faut dire que les années passent, et puis les années aussi, on voit toutes sortes de nouvelles maladies surgir. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne connaît pas la maladie. Est-ce que depuis que vous êtes converti, vous n'êtes plus jamais allé chez le dentiste. Hein, c'est arrivé, ça. Et c'est comme ça. On a encore un corps qui se désagrège, qui connaît des souffrances et malheureusement des maladies, et parfois des maladies de longue durée, devant lesquelles on est bien impuissant, bien malheureux, bien attristé pour ceux qui souffrent. Mais on voit que même des chrétiens qui aiment Dieu sont attaqués dans leur chair, dans leur santé. Et c'est une fournaise. C'est des moments difficiles. Vous savez, il y a la maladie, déjà la souffrance, mais il y a aussi, pour un chrétien, c'est pas facile d'être malade. C'est pas facile d'être malade pour un chrétien, même pour un pasteur, je pense. Parce qu'on se dit que si on est chrétien, on ne doit jamais être malade. Et quelque part, on renvoie au chrétien malade une culpabilité. Il dit, mais pourquoi tu es malade, toi? C'est pas normal. Si tu es chrétien, tu ne devrais pas être malade. Et quelque part, c'est plus dur d'être chrétien et malade que d'être non-chrétien et malade. Parce que quand un chrétien est malade, et quelquefois il subit encore non seulement le fait de sa maladie qui est déjà pas facile, mais en plus il subit une sorte de, on va pas le dire directement, mais une sorte de petit reproche. Et pourquoi que tu continues à être malade, hein? Pourquoi que tu n'es pas guéri encore? La guérison, ça appartient à qui? Ça appartient à nous, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Donc il nous faut faire confiance, entourer. C'est pas facile d'entourer un malade qui souffre. Et tout le monde n'est pas habilité pour le faire. Parce qu'il y en a qui vont malheureusement faire des maladresses et faire davantage souffrir cette personne plutôt que de l'aider. Donc quand un chrétien souffre, eh bien, on est plutôt là quand il est malade pour l'entourer, pour prier avec lui et pas pour juger, condamner ou avoir un regard réprobateur sur sa souffrance. Ça, il nous faut veiller à cela. La souffrance physique, la souffrance morale. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où le péché abonde. Et nous, chrétiens, quand on voit ce qui se passe autour de nous, ça ne nous réjouit pas toujours, parce qu'on voit vraiment que des personnes suivent un mauvais chemin. Je prendrai l'exemple, dernièrement, notre fils a ramené de l'école un livre avec une... c'est à lire, c'est dans leur programme, hein, il est en CM2, et je regarde la pochette du livre, c'était une hache ensanglantée avec du sang partout. Je regarde les trois premières pages, c'était un père et deux enfants, et puis quelqu'un qui se jette avec une hache sur les deux enfants pour les tailler en morceaux. Voilà. Un truc d'horreur. Sanglant. Et puis après, il y avait d'autres crimes, des enquêtes. Enfin, en réalité, c'était soi-disant un livre d'enquête. Bon. Alors, quand j'ai vu la pochette, j'ai regardé derrière. En plus, c'était marqué à partir de 12 ans. Bon, les enfants, ils ont 10 ans en moyenne, hein, dans 10-11 ans. Je suis allé voir, j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse pour lui poser des questions, pour lui demander comment ça se fait qu'on distribuait ça à des enfants. Elle me dit, mais monsieur, aujourd'hui, tous les enfants, ils voient ça tous les jours à la télévision. Le soir, c'est que des films, j'allais dire d'horreur, mais bon, il y a des morts, du sang. Je lui dis, c'est vrai qu'à la télévision, il y a toutes sortes de choses comme ça, mais nous, parents, on est responsables de ce qu'on laisse, déjà de ce qu'on regarde nous, mais de ce qu'on laisse aussi regarder à nos enfants. Et ce n'est pas nous qui avons institué ça, c'est l'État. Et comme l'éducation nationale dépend de l'État, l'État a lui-même réglementé certains programmes, interdits au moins de 12 ans, interdits au moins de 16 ans, etc., pour attirer l'attention des parents sur le fait que certains programmes sont nocifs pour nos enfants. Et voilà que d'un autre côté, on nous met entre les mains des ouvrages qui sont mauvais, hein, qui sont des... Alors bon, moi je lui ai exprimé mon point de vue. Bon, elle n'était pas d'accord avec moi, elle est restée alors elle me dit, oui, mais c'est l'éducation nationale qui a mis les livres, qui a sélectionné les livres. Bon, il y avait peut-être 10 livres, mais j'ai remarqué que ce prof là il a pris les livres les plus si vous voulez sanglants, voilà. Et c'est son choix, il n'était pas obligé de choisir ce livre dans la liste, il y en avait d'autres. Mais voilà. Alors, à nous, parents chrétiens, de faire aussi connaître notre point de vue, parce que aucun parent s'est plaint, évidemment. Personne ne s'est manifesté. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'on vient me dire ça. Bien, je me suis dit, peut-être ça va éveiller son attention, qu'il y a des parents qui ne pensent pas comme elle, et que ça va lui permettre aussi de faire un petit peu attention dans ses choix. Parce que quand on met entre les mains des enfants ce genre de littérature, ben c'est choquant. c'est violent, c'est comme des films d'horreur. Voilà, c'est la même chose. Alors, veillons, frères et sœurs, et nous témoignons aussi de nos convictions, même si, bon, ils nous prennent un peu pour des gens bizarres, mais néanmoins, nous, on est convaincus que y a des choses dans la morale qu'il nous faut respecter et qu'on ne fait pas du n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'après, les parents, à charge, déjà, de veiller à ce que nous regardons à la télévision, parce que, attention, y a de tout, il y a à boire et à manger, et puis de veiller à ce que nos enfants... aussi, nous les laissons regarder. Ça, c'est notre responsabilité. Souffrance physique, souffrance morale, souffrance spirituelle. Quand on est face au silence de Dieu et qu'on est, on sent qu'on n'est pas compris de Dieu ou qu'on n'a pas de réponse de Dieu, eh bien, on a une souffrance qui vient là. Il y a un verset d'un psaume qui dit que Dieu entend la voix de nos larmes. Donc, la prière de la souffrance, la prière du cœur. Et la souffrance... elle est aussi due à notre changement de position parce que depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous avons changé de royaume. Nous étions dans le royaume des ténèbres et nous sommes passés dans le royaume de Dieu. Et du fait de ce changement, eh bien Satan, quand il perd une âme, vous croyez qu'il reste tranquille à regarder les gens se convertir et puis s'éloigner de lui? Non, il va essayer de ramener en arrière toute personne qui s'est convertie. C'est pour ça que nous connaissons des combats et des souffrances aussi, parce que l'ennemi est appelé le prince des démons dans la Bible. Alors il envoie ses démons, c'est des délégations, il envoie les démons pour nous faire détourner du plan de Dieu. Ne croyez pas qu'un démon ne peut pas s'approcher d'un chrétien, on en a déjà parlé. Le diable lui-même s'est approché de Jésus. Un démon peut très bien s'approcher d'un chrétien et le tenter, et lui souffler à l'oreille de se détourner, de faire des choses. Particulièrement si le chrétien vit dans le compromis, et si déjà il a un cœur ouvert à une certaine action spirituelle mauvaise. Donc, il est appelé le prince des démons. Satan est appelé le prince de ce monde. Donc, il va utiliser des gens dans le monde pour s'opposer à nous. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait des souffrances. Et plus nous aimons le Seigneur, plus nous allons connaître donc cette souffrance-là. Ne trouvez pas étrange, dit Pierre, d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Alors, troisièmement, une question qu'on peut se poser, quel est le rôle de la fournaise? À quoi ça sert de passer par la fournaise? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce que ça sert à rien? D'après vous, ça sert à quelque chose? Ça sert à quoi? Le feu, ça purifie. Bon, dans la même épître, vous avez que notre foi est purifiée comme le feu, comme l'or qui passe par le feu. Notre foi est éprouvée, notre foi est testée. Avant de mettre sur le marché certains jouets qui viennent de Chine ou du Japon, tout ça, ils sont éprouvés pour voir si on peut leur mettre la marque CE, Communauté Européenne, pour que ce soit vendu dans notre espace à nous. Alors, pour les tester, ils leur font subir des tortures. Ils leur mettent des poids pour voir si la mousse ne va pas sortir. Ils leur tirent les yeux. Ils mettent des poids sur les bras pour voir si les coutures ne vont pas craquer. Et il éprouvait le nounours. Pauvre nounours qui est là, testé. Et puis après, il a bien tenu. Alors, quand on le voit à la fin, il est un petit peu abîmé. Il est un petit peu cabossé. Il a des bosses. Mais s'il a résisté, il a la marque CE et il peut être distribué dans toute l'Europe. Et nous aussi, chrétiens, nous sommes éprouvés. Et nous passons par la fournaise. Alors, ça va faire mourir en nous. Est-ce qu'il n'y a pas encore dans notre cœur des éléments qui sont rebelles à Dieu? Des choses dont on doit être délivré. Et il n'y a pas d'autre moyen que dans le feu de l'épreuve, la fournaise, où tout ça, ça va se purifier. Le feu nous purifie. On n'aime pas ça, le feu, mais ça a un effet quand même positif. Le feu, ensuite, nous transforme. Et j'ai remarqué que tous ceux qui passent par ce genre de fournaise, ils ne ressortent pas les mêmes que quand ils sont rentrés. Parce qu'on a dit pour les métaux, ça a une action pour les transformer, mais c'est vrai, pour, par exemple, pour le cristal. Quand vous voyez cette belle illustration du souffleur de cristal, quand il souffle à chaud, il faut que le cristal soit incandescent. Il est rouge, là. Et à ce moment-là, il peut le travailler, lui donner la forme qu'il veut, mais dès que ça refroidit la température, il ne peut plus le travailler. Il est obligé de le remettre un petit coup dans la fournaise. à ce moment-là, il peut à nouveau le travailler. Et je crois que Dieu fait un petit peu pareil avec nous. Parce qu'on ne peut être travaillé, transformé que quand on passe dans la fournaise. Mais il y a une deuxième étape dans la fabrication du cristal, c'est le travail à froid. Une fois qu'on lui a donné la forme qu'on veut, on prend des outils pointus, coupants, pour tailler le cristal et lui donner des décorations, l'embellir. Mais ça fait encore souffrir. Mais ça nous parle de la taille de Dieu en nous, qui vient enlever encore tous ces morceaux et puis nous donner un bel aspect comme lui il veut. Et puis il y a une troisième étape, c'est l'application de l'or sur le cristal pour le décorer, l'application de l'or. Et une fois qu'on a fini, il faut le remettre encore une fois dans la fournaise pour bien chauffer tout ça, pour que l'or s'incruste, s'imprègne avec le cristal. Donc vous voyez, dans toutes ces étapes-là, eh bien, c'est constamment, soit à froid, soit à chaud, il y a toujours un travail finalement qui est fait sur le cristal. Et je crois que pour Dieu c'est pareil, il désire travailler nos vies et il n'y a pas d'autre moyen que de passer par la fournaise. Donc le rôle de la fournaise, ça nous purifie et ça nous transforme. Alors qui est partant pour aller dans la fournaise? Ne levez pas la main. On n'est pas partant. On n'est jamais partant. Il faut qu'on nous pousse. Il faut qu'on nous pousse. Si on y va, c'est qu'on n'a pas le choix. Oui, on dit « Seigneur, purifie mon cœur ». C'est vrai, on le chante. Mais quand on voit ce que le Seigneur doit faire pour purifier notre cœur, je ne sais pas si on le chante du bout des lèvres à ce moment-là, mais c'est plus difficile. Oui, le feu nous transforme, mais quand on voit ce que le Seigneur est obligé de faire pour nous transformer notre mentalité, notre caractère. Voilà. Qui permet la fournaise? Quatrième point, qui permet la fournaise? En dernier ressort, c'est toujours Dieu. Parce qu'il n'y a pas un cheveu de notre tête qui tomberait à terre si Dieu ne l'avait permis. Donc, le diable, c'est vrai que lui, il va agir, mais il n'est pas tout puissant. Et il n'est pas omniprésent. Et Dieu est toujours plus fort et va mettre des barrières aussi à l'adversaire. Donc notre attitude dans la fournaise, je pense qu'elle dépend de notre compréhension de Dieu. Et ça, c'est un point très important. Est-ce que nous comprenons la manière de faire de Dieu? Si nous ne la comprenons pas, alors nous allons souffrir dans la fournaise et nous allons peut-être rejeter Dieu. Mais si nous sommes dans la fournaise et nous réalisons que Dieu, lui, il est toujours en contrôle, même si je suis moi dans la fournaise, lui, il contrôle toujours toutes choses. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas dépassé par la situation. La Bible nous dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Et que Dieu a même préparé le moyen dont nous allons sortir de cette affaire. Et si on a cela dans notre esprit, vous voyez, ça va nous aider à traverser ce moment difficile. Si on a dans notre esprit cette conviction que Dieu... Est-ce que Dieu veut toujours le meilleur pour nous ou est-ce que Dieu veut notre malheur? Il veut notre bonheur. Donc Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Oui, est-ce qu'il veut le meilleur pour nous? La Bible dit « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses, ça veut dire les bonnes, ça veut dire les mauvaises, ça veut dire que tout ce que Dieu permet, finalement, c'est pour notre bien. Et que lui, il a son plan et que... Ce que j'aimerais vous dire ce matin, et vous rappeler, mais vous le savez déjà, c'est que même si vous êtes dans la fournaise, mais Dieu vous aime toujours. Il ne va pas vous dire « je ne t'aime plus, je t'ai mis dans la fournaise » pour que tu souffres, que tu sois malheureux. Mais il le fait pour notre bien. La pensée de l'histoire de Joseph me revient en mémoire. Lorsque Joseph, ce jeune homme, a reçu des révélations de Dieu, il va commencer par connaître des grands rejets, rejet de son père, rejet de ses frères, rejet dans la citerne, rejet de Potiphar, rejet dans la prison. Vous lisez toute son histoire. Ce n'est quasiment que des épreuves, que de la fournaise, que du rejet. Il a même failli être tué par ses propres frères. Et puis vous le voyez à la fin, il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, il se révèle à eux, je suis Joseph, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quelle histoire de reconnaître que dans tous ces malheurs et ces épreuves, ces moments les plus sombres de son existence, il y avait là derrière, quand même au-dessus de cela, il y avait la main de Dieu qui veillait. Et quand on n'a pas compris ça de Dieu, alors on est prêt à tout quitter, tout abandonner et rejeter le Seigneur. Mais voyez, Joseph, lui, il gardait toujours l'espoir dans ce Dieu qui change le mal. Tout le mal qu'on vous fait, qu'on nous fait, parce qu'on est chrétien, eh bien Dieu, il veille quand même sur nous et il va le transformer pour sa gloire en quelque chose de positif. Béni soit son nom. Dans un deuxième point, je voulais parler de la louange, puisque on a parlé de la fournaise, mais le thème c'est la louange dans la fournaise. Alors, quand est-ce que nous devons louer le Seigneur ? Première question, quand est-ce que nous devons louer le Seigneur ? La Bible nous dit que la louange, ce n'est pas une option, qu'on loue si on a envie, si on n'a pas envie. Non, c'est un ordre. Il est dit dans Matthieu 4, 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras, c'est Dieu qui nous le commande. Il n'est pas écrit, tu adoreras quand tu auras envie, ou tu adoreras si tu vas bien et tu le serviras. Non, tu adoreras, donc ça doit être pour nous une prise de position. Quelqu'un m'a dit dernièrement, mais moi je ne suis pas venu au culte dimanche, je ne suis pas venu au culte dimanche dernier parce que j'étais pas très bien moralement, alors je voulais pas sortir. Voilà. Et quelquefois, on suit comme ça nos états d'âme. Ça vous arrive d'avoir des états d'âme ? Vous êtes démoralisé ? Vous n'avez pas envie de sortir ? Vous n'avez pas envie de vous lever ? Alors, dans ces cas-là, on loue pas le Seigneur ? On met le Seigneur de côté, on range sa Bible et puis on reste avec nos pensées noires ? C'est comme ça qu'on doit faire ? Quand on saisit par la foi, en se disant « Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas le moral, ça ne va pas, il n'y a rien qui va dans ma vie, mais j'ai pris la décision. » Et moi, j'en reviens sur cet aspect-là. C'est que c'est une décision. J'ai pris la position de louer le Seigneur tous les jours de ma vie. C'est David qui le dit. David dit au psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel en tout temps. » Psaume 34, versets 1 et 2. Paul aussi recommande la même chose lorsqu'il dit « Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, peut-être vous allez me dire « Oui, mais pour vous, c'est plus facile, David, Paul, vous ou les pasteurs, si vous êtes toujours à moitié la tête dans le ciel, et c'est pareil. » Ils étaient pareils que nous, ceux qui ont écrit ces choses. Ils n'étaient pas des surhumains, ils étaient des êtres humains. Et donc, tout croyant peut louer le Seigneur. Même si vous ne dites que quelques mots, vous pouvez le faire. Quelques mots de louange, quelques mots, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas réservé à quelque élite, je ne sais pas, ou réservé à quelques personnes dans l'auditoire, le dimanche matin ou chez vous. Vous vous dites, mais moi je suis pas assez bien pour louer le Seigneur. Non, vous pouvez louer le Seigneur. La louange, ce n'est pas une question d'ambiance ou de lieu ou d'horaire. Ce n'est pas une question d'âge. Vous avez des personnes âgées qui vont louer le Seigneur avec peut-être plus de liberté que certains jeunes qui vont pas oser s'exprimer devant le Seigneur. Donc, la louange, je dirais, ça dépend de notre relation avec Dieu et de notre décision, comme David dit, de le louer en tout temps, chaque jour. Donc prenons un temps à la maison pour louer le Seigneur, et puis prenons notre place aussi dans la louange du culte. Et lorsque l'on vient dans la maison, on s'est préparé à l'avance. On vient dans la maison. Vous savez, il y a toujours cette impression, quand on commence le culte, que les premiers chants, c'est pour nous préparer à la louange, à l'adoration, et puis après vient la parole. Pas du tout. Dès les premiers chants, nous sommes déjà entrés dans la louange et l'adoration. Ça, il nous faut bien l'intégrer pour que lorsque nous venons dans sa présence, bien, dès que nous ouvrons notre bouche, c'est pour lui. Vous ne venez pas pour un tel ou un tel, nous venons tous pour le Seigneur et nous venons pour l'adorer, pour l'honorer. C'est lui la priorité dans le culte. Deuxième question, est-ce qu'on peut louer Dieu quand tout va mal ? Est-ce qu'on peut louer Dieu quand tout va mal ? Oui. On a parlé de cet exemple de Paul et Silas qui se sont retrouvés injustement en prison, les ceps aux pieds, en souffrant de coups de bâton qu'ils avaient reçus. Et au lieu de se plaindre, la Bible dit, c'est dans Actes 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les entendaient. C'est un exemple. Mais ils étaient vraiment dans un moment difficile de leur vie. Et tout allait mal pour eux. Parce qu'ils avaient la souffrance physique, ils étaient dans la prison, ils étaient rejetés. Et pourtant, vous voyez qu'il y a quand même la louange qui est là. Il y a un autre exemple, c'est celui de Job. Job qui a perdu tous ses enfants, qui a perdu tous ses biens dans des catastrophes terribles. Et à un moment donné, c'est dans Job chapitre 1 verset 20, il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté » et puis finit par « en bénissant le nom de Dieu ». Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ça nous interpelle parce que cet homme, il a vécu des choses invivables, incompréhensibles, qui lui auraient permis de se révolter contre Dieu peut-être même, mais il garde dans sa souffrance, parce que là, il souffre quand il parle. Il ne dit pas ça comme ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Vous voyez, comme des fois on le chante, d'ailleurs on l'a chanté tout à l'heure ce verset. Mais il le dit dans un moment où, naturellement, ce n'est pas le genre de choses qu'on dit. On n'est pas porté vers la louange quand on passe par ce genre de choses-là. Et lui, il dit, voilà, j'ai tout perdu, j'ai perdu ça. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Il garde quand même une place dans sa souffrance pour la louange. C'est un bel exemple qui nous parle, parce que nous-mêmes, quand nous souffrons, eh bien, gardons une place aussi pour la louange. Jérémie, je voulais lire aussi dans Jérémie, dans Lamentation, chapitre 3, verset 19, un autre exemple d'un serviteur ici, prophète, qui, l'essentiel de sa vie, il a été rejeté par le peuple parce qu'il annonçait véritablement les paroles de Dieu. Pourtant, tout ce qu'il disait, c'était la parole de Dieu. Et il n'a eu aucun succès parce que c'était constamment, on lui disait « arrête, tu dis des choses qui ne sont pas de Dieu, au contraire, enfin, ils l'ont mis dans une citerne, ils l'ont mis de côté, ils ont voulu le tuer à plusieurs reprises. » Bon, voilà, Jérémie, encore quelqu'un, on pourrait dire, c'est le prophète qui a beaucoup souffert. Et il le dit, il exprime à Dieu, vous voyez, Lamentation chapitre 3, verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et on n'est pas des surhumains. Quand on passe par les épreuves, par le rejet, par la souffrance, on est abattu, on est même désespéré des fois, on pleure, on ne sait pas comment on va faire. Mais regardez ce qu'il dit, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, voici ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande !» Mais il fait une transition entre le moment où il exprime à Dieu son désespoir, sa souffrance, et ça, c'est on peut le faire. Et puis, il arrive quand même à trouver une place pour louer le Seigneur. Gloire à Dieu, cet exemple encore, qui nous montre aussi, nous, comment nous pouvons traverser la fournaise tout en laissant une place pour louer le Seigneur. Je terminerai en donnant quelques conseils, peut-être pratiques, pour louer Dieu dans la fournaise. Comment faire ? Comment faire quand on n'a pas envie de louer Dieu, quand tout va mal autour de nous ? Alors, première chose, premier conseil, c'est, comme David dit, de faire une injonction à son âme lorsqu'il dit « Mon âme, bénis l'Éternel ». Il est en train de se parler à lui-même, si vous voulez, et de dire à son âme « Mon âme, maintenant, c'est à toi de bénir le Seigneur ». Voilà. Alors ça, c'est à nous de le faire et de prendre autorité quelque part sur ce vague à l'âme, vous savez, ces moments de découragement, d'abattement, le cœur lourd, qui vont nous entraîner petit à petit vers la plainte, les gémissements, etc. Mais au bout d'un moment, quand on a exprimé tout ça, son désespoir au Seigneur, sa plainte, ses gémissements, allez, on dit « Mon âme, maintenant, mon âme bénit l'Éternel ». Et là, on commence à renverser la vapeur. On est en train de faire la transition comme on l'a vu dans Lamentation de Jérémie, ce prophète-là, qui commence par exprimer sa souffrance, mais qui finit par la louange. Deuxième conseil, on peut louer Dieu en langue. Quand on ne sait plus comment s'exprimer devant le Seigneur, parce qu'on n'a pas envie de louer, on n'a pas envie de parler à Dieu, mais on peut toujours parler en langue. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu, quand on prie en langue. On parle à Dieu, et la Bible dit qu'en plus, on s'édifie soi-même. Donc, louer Dieu en langue. Et ainsi, déjà, vous louez le Seigneur. Quand bien même votre intelligence demeure stérile, quand vous louez en langue, bien vous louez. Vous pouvez louer en langue ou chanter en langue. Il y a ce verset de 1 Corinthiens 14, 15 qui dit « Je prierai par l'Esprit, je prierai par l'intelligence et je prierai par l'Esprit, je chanterai par l'intelligence et je chanterai par l'Esprit. » Donc on peut prier, on peut chanter. Voilà. On peut prendre aussi le support de la parole de Dieu. Par exemple, on prend un psaume, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et on commence en se référant à ce psaume et on commence à louer le Seigneur pour cela. Vous voyez, pour chaque point du psaume, chaque verset, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur parce que tu pourvois tous mes besoins. Tu prends soin de moi. Et puis on le prend comme support. Ce n'est pas une récitation, mais ça nous aide peut-être à le louer justement quand on a le cœur vide, cœur sec devant le Seigneur. M'arrive de faire de la marche, et comme j'aime pas marcher longtemps sans, je m'ennuie au bout d'un moment, alors je commence à chanter. Je commence à chanter des chants, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je prie en langue, je chante en langue. Et je connais ce psaume 23 par cœur, par exemple. Et je commence à le réciter. Et ce qui m'est arrivé, c'est que même je me suis surpris à chanter le psaume 23. Mais ce n'est pas une mélodie qui... Vous ne le retrouverez pas dans les recueils, cela. C'est une mélodie qui vient comme ça. Voilà. Je me l'ai chanté. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je passe un moment de louange, finalement. En même temps que j'entretiens aussi un peu l'exercice physique. Parce qu'il y a quand même un frère qui m'a fait remarquer il y a quelque temps que vous les pasteurs, attention parce que vous êtes menacés de surcharge pondérale. Ouais, j'ai dit, il faut que je fasse attention. Voilà. J'ai pas envie d'être menacé. Et c'est vrai que quand je vois quelques-uns de mes frères pasteurs, je me dis, il n'a pas tort. Il y en a quelques-uns qui devraient faire un peu plus de marche. D'ailleurs, c'est conseillé par les médecins d'avoir une petite activité physique, pas trop débordante non plus, mais ne serait-ce que d'entretenir un peu le physique, mais c'est très bon pour le corps, pour le cœur, pour tout. Et nous devons aussi, nous en tant que chrétiens, veiller quand même à notre santé. Par exemple, celui qui mange que de la charcuterie, que des trucs gras, il est en train de se détruire. Ici, il fait pas. Donc après, s'il vient prier le Seigneur, Seigneur, guéris-moi de tout mon cholestérol. Oui, mais t'as vu comment tu manges. Il faut que tu fasses attention à ce que tu mets dans ton assiette. Hein. Mais ça, c'est des conseils dans la parole. Donc, tout ça, on doit en tenir compte. Donc, alors, pour louer le Seigneur, prenons le support de la parole de Dieu. Et puis, on se laisse inspirer dans la louange, dans l'adoration. On peut aussi, à notre conseil, dire, ne regardons pas aux choses visibles, mais regardons vers les choses invisibles. Parce que derrière tout ce qui nous déçoit, ou derrière les montagnes, il y a toujours le Seigneur qui règne. On dit souvent qu'au-delà des nuages sombres du ciel gris, le soleil continue toujours de briller. Donc c'est vrai pour notre Dieu. Lui, il est là toujours pour nous. Et puis, je terminerai un dernier conseil, c'est d'écouter des CD de louanges, des chants de louanges que vous avez à votre disposition. Parce que la Bible dit « Entretenez-vous ». Par des psaumes, des cantiques, des hymnes. Et tout ça, c'est des chants à la gloire de Dieu. Alors, il y a des bons moyens aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou dans la voiture avec les CD ou sur l'ordinateur. On peut avoir partout presque, on peut avoir des chants de louanges. Et cela nous permet de nous entretenir. Alors, souvent, quand je vais à Grenade ou je fais une visite, quoi, dans la voiture, j'aime bien écouter des chants de louanges. Déjà parce que ça me permet de louer le Seigneur, mais aussi parce que j'apprends des nouveaux chants comme ça en écoutant les chants. Ça me permet de connaître de nouveaux chants. Et la Bible dit de chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Donc tous ces supports-là, ce sont des moyens qui nous aident aussi à louer le Seigneur. Alors, ne dites pas comme un frère qui a dit « Oui, vous êtes dans la voiture, vous conduisez, alors vous écoutez les CD de louange, alors c'est les anges qui conduisent à votre place. » Ça, c'est pas vrai. C'est quand même vous qui avez le volant entre les mains. Et si vous commencez à fermer les yeux dans la voiture, alors là, je ne monterai pas avec vous dans la voiture. Même si vous louez le Seigneur, non, il faut quand même tenir compte. S'il y a un feu rouge, on s'arrête. C'est pas parce qu'on loue le Seigneur que on roule à 150 sur l'autoroute ou on grille les feux rouges, non. Alors, en conclusion, on va terminer. La fournaise. Alors, qui est partant? Il y a encore des gens partants pour la fournaise? Bien sûr, comme je l'ai dit, on n'est jamais partant. Hein. La fournaise, elle sera toujours sur notre route, mais tôt ou tard, bon, on ne l'a pas prévu, vous savez, ce n'est pas marqué dans notre agenda. Tiens, lundi, tiens, demain, là, il y aura une épreuve, tiens, c'est marqué, là. Tu vois. C'est pas marqué. Ça sera la surprise. Il faut la prendre comme elle vient. Alors, ne soyons pas étonnés, du moins, si jamais il y a une fournaise sur notre route, Pierre nous le rappelle, mais si Dieu a permis cette fournaise, c'est qu'il a une bonne raison et que lui, il sait ce qu'il fait. Et ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que notre louange, elle ne doit pas faiblir dans la fournaise. Quand bien même on est déconfit, abattu, désespéré, eh bien, continuons à louer le Seigneur de tout notre cœur. Vous savez que quand on continue à louer le Seigneur, même si on passe par l'épreuve, c'est un puissant témoignage de nos convictions. Et ça va encourager aussi ceux qui souffrent et ceux qui passent par la fournaise, parce que notre louange ne doit pas dépendre des circonstances, mais elle dépend de notre relation avec Dieu. Je termine avec ce verset du psaume 71, verset 14, qui dit « Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » On le dit ensemble, « Je te louerai de plus en plus. » Et je te louerai chaque jour. Que Dieu soit béni. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous montre que tu nous aimes malgré les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, mais qui sont nécessaires pour notre progression. Et nous te prions pour nos frères, nos sœurs, peut-être qui passent par ces moments douloureux, par ces moments difficiles, où ils se sentent éprouvés dans leur santé, dans leur être entier, dans leur âme ou dans leur vie spirituelle. Mais nous croyons, Seigneur, que toi-même, tu as toujours les réserves nécessaires pour nous accorder ta paix, ta grâce, et nous permettre de traverser ces moments difficiles en comptant sur toi. Oui, Seigneur, encourage ton peuple à lever les yeux vers toi et à continuer à louer et adorer le Seigneur en comptant sur toi seul. Merci pour cette journée. C'est toi qui l'as créée. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier parce que tu as prévu toutes choses pour tes enfants. Merci Seigneur d'étendre ta main sur la réunion de cet après-midi, de nous garder dans ta paix et à toi toute la gloire. Amen.